Bonjour, rebonjour Philippe Soler.
Oui, rebonjour Frédéric Tally.
Mais asseyez-vous, bien sûr que vous restez, mais oui.
Ah, je croyais qu'on était viré, moi.
Mais pas du tout, dans cette émission, on vire personne, tout le monde reste autant qu'il veut.
Parce que, attention,
tout le monde reste autant qu'il veut.
Solaire, ça y
est. Puisqu'on parlait de corps d'ailleurs tout à l'heure, dans l'un de vos deux nouveaux livres, L'Évangile selon Nietzsche, vous dites que... L'Évangile de Nietzsche, pardon. Vous définissez comme un corps réfractaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là et réfractaire à quoi? En tout cas, pas la communication. Hein.
C'est-à-dire que, voulez-vous que je vous le fasse dadaïste?
Tout à coup. Si vous voulez.
Langue torque, langue torque, oka, oka. Oka, vous voyez tout de suite le silence. Donc la communication, vous voyez, ça dépend de ce qu'on veut dire. Réfractaire à la communication qui ne dit rien. Car on peut aussi communiquer sans rien dire. Les gens qui disent vraiment quelque chose, à mon avis, sont très rares. Et donc, moi, ça ne me gêne pas du tout. Vous voyez tout de suite, langue torque, voilà. Ça ne me gêne pas du tout d'employer le langage pour dire vraiment quelque chose. Alors que autrement, c'est le bavardage, l'exhibition des programmes socialistes avec ces trois personnages complètement...
Oui, n'y revenons pas.
Donc le blabla, le bavardage, les clichés, les lieux communs, la philosophie à tout faire, débile, les numéros de magazines, la philosophie peut-elle rendre heureux, par exemple le magazine L'Express cette semaine, sont roulés par terre de rire. Donc le déficit de pensée est tel que je crois quand même qu'il faut se dire... un peu, beaucoup, que dire quelque chose, c'est vraiment rare. Alors, je peux vous dire des choses.
Alors, justement, parce que depuis 1983, à peu près, depuis Femme, que vous avez, qui est devenu un best-seller après votre passage à Apostrophe chez Bernard Pivot. Avant Femme, vous étiez moins connu, vous étiez la contre-culture, quasiment l'underground.
Oui,
mais à partir de Femme, vous êtes devenu une sorte de super intellectuel qui virevolte comme ça d'une émission de télévision à l'autre. Alors, on vous a, dès l'instant où vous avez écrit Femme, on vous a appelé pour toutes les émissions concernant les femmes. Après Casanova, ça a été pour toutes les émissions parlant de la séduction. Mozart vous a permis d'avoir toutes les émissions où on parle de musique classique. Récemment, vous venez de faire un livre sur les fleurs. Je me demande si vous allez faire toutes les émissions de jardinage. Et quand on fait toutes ces émissions-là, Philippe Soler, est-ce qu'on peut dire des choses?
Absolument, chaque fois, on peut dire quelque chose. Et je suis ravi d'ailleurs.
Et sur quoi?
Eh bien, sur le sujet que nous abordons, voulez-vous qu'on commence?
Oui, allons-y. Non, mais déjà, est-ce que vous avez l'impression, dans toutes ces émissions que vous avez faites, grâce au fait que...
D'habitude, on ne me laisse pas longtemps parler, et je suis ravi d'être avec vous, parce que vous ne regardez pas déjà votre nom.
Ah non, pas du tout.
C'est ce qui est habituel dans les émissions de télévision.
Et ne gagnez pas de temps pour ne pas me répondre.
Je vous réponds là. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps de dire quelque chose? Bon, voilà, c'est tout le problème. Alors, chaque fois, je sais que ce que j'ai à dire va être recouvert, plus ou moins, par le temps qui nous est... il nous est absorbé, si je peux dire. Voilà. Alors, si vous voulez savoir de quoi je parle dans les fleurs, il me semble que c'est un sujet extraordinaire.
C'est pas ce que je vous posais comme
question. Alors, pourquoi je fais tout ça?
Pourquoi vous faites tout ça et que dites-vous?
Parce que, premièrement, je crois qu'aujourd'hui, un intellectuel ou un écrivain ne doit pas se laisser marginaliser, ce qui est le programme du système, c'est-à-dire, soyez bien dans votre coin, ne paraissez pas à la télévision ou à la radio, vous aurez appris de vertu, Julien Gracq, Maurice Blanchot, etc. Vous savez, les grands silencieux qui sont déjà morts. Et qu'on... Voilà. Je crois qu'au contraire, il faut se battre de là où il y a des dispositions de communication. Ces dispositions de communication sont extrêmement étroites et chaque fois, je sais que si je parle à la télévision ou à la radio, je m'adresse, disons, entre 8 000 ou 10 000 personnes à peine, hein, même si le créneau est très large, qui peuvent éventuellement entendre un message. Donc c'est un peu comme les messages, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est de vous rappeler. Moi, j'étais très sensible à ça quand j'étais enfant. J'entendais ici Londres, les Français parlent aux Français.
Mais est-ce que dans toutes ces émissions, et y compris celle-ci, depuis que vous êtes là, est-ce que vous n'avez pas trop tendance à faire de l'ironie? L'ironie que n'aimait pas du tout Nietzsche, hein, votre héros.
Ah bon,
non, il me semble pas. Moi, je crois qu'il est très sérieux. Nietzsche. Et de la même façon, Victor Hugo est toujours intervenu sur tous les sujets.
Oui,
et si vous connaissez Victor Hugo et non, il n'est pas ironique non plus. Il est toujours très sérieux.
Non, en effet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Nietzsche est tout le temps ironique. Sinon, il n'aurait pas eu l'adoration qu'il avait pour Voltaire. Vous savez, comme moi, bien sûr, et comme tous les auditeurs qui nous écoutent, que Nietzsche a dédié Humain trop humain, un de ses plus grands livres, au moment du centenaire de la mort de Voltaire, à Voltaire, l'homme, dit-il, le plus intelligent qui a existé avant moi. Tout ça était... Mais comment pouvez-vous imaginer que Nietzsche ne soit pas dans l'ironie? Or, si vous voulez, en effet, c'est ça le problème, c'est que l'ironie n'est plus vraiment comprise. Il faudrait maintenant, souvent, je m'en rends compte quand j'écris, quand je publie des choses, que ce qui sont prises au premier degré, alors qu'il y avait déjà le deuxième, sinon même le troisième, qu'il faudrait dire, autrefois on avait le point d'ironie en typographie, attention, ici, ironie. Donc, si l'ironie disparaît, eh bien, la bestialisation s'installe, c'est-à-dire l'esprit sérieux, l'esprit de plomb, le retour de tous les archaïsmes qui nous menacent de toutes parts. Un esprit sans ironie, une expression sans ironie, c'est vraiment ce qui est souhaité par le système.
Vous pensez ?
Ah, je crois, oui. Pour être ironique, il faut avoir le sens du langage. Le sens du langage, il faut savoir que la double entente, la nuance, etc. Oui, tout à fait. Pourquoi dites-vous que Nietzsche est sans ironie ? Au contraire. Mais le gai savoir, c'est l'ironie même sur les siècles, sur l'histoire de l'humanité. C'est une ironie fabuleuse pour montrer à quel point le mensonge jusqu'à présent régnait. Il faut un esprit sarcastique. Est-ce que vous croyez qu'on peut écrire ces choses magnifiques que Nietzsche a écrites sans ausculter le mensonge généralisé?
Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray?
De Voltaire, de Nietzsche, de Solers,
de l'ironie en tant que philosophie.
Oui, bien sûr. Je trouve qu'elle est cardinale si on a quelque chose à dire. L'ironie pour elle-même, ça sert à rien. Le bavardage pour lui-même, ça sert à rien. Il faut dire des choses.
Ça ne serait pas de l'ironie à ce moment.
Pardon?
Ça ne serait pas de l'ironie. Non, l'ironie, c'est le second degré.
L'ironie, c'est l'excipient dans le suppositoire. C'est ce qui permet de faire passer la médication en faisant rire ou sourire. Mais il faut dire des choses quand même. L'ironie, c'est pas une fin en soi. Le bon mot, c'est pas une fin en soi. Il faut dire des choses. Non, je dis de manière générale pour dire qu'il y a les choses importantes ne sont pas les façons de les dire, mais ce qu'on dit véritablement. Je pense qu'il faudrait redire des choses politiques, redire des choses qu'on ne dit pas, refaire savoir un certain nombre de choses qui ne sont pas voltiles, mondaines, bourgeoises, enfin comme...
Et surtout pas non plus l'esprit de sérieux, l'esprit plombé, l'esprit lourd, qui nous menace plutôt que l'histoire. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est l'esprit de sérieux qui est le grand, grand péché contre l'esprit.
Je crois qu'on manque d'esprit de sérieux, il n'y a plus que des amuseurs.
Ouais.
Plus que des amuseurs. Donc,
les amuseurs et l'esprit de sérieux, c'est l'envers et l'endroit de la même chose.
Non. Je pense que le sérieux, c'est pas si mal que ça. C'est bien. Il y a de la misère, il y a de la pauvreté, il y a de l'exploitation, il y a des problèmes politiques.
Ça y est, la moraline.
Oui. Heureusement. Je veux dire, chacun la sienne. Moi, je suis pas allé baiser le pied de Jean-Paul II en lui offrant un livre que j'aurais appelé La Divine Comédie.
C'est de quoi que vous parlez? J'ai baisé le pied, moi.
Oui, il y a la photo.
Mais il n'y a pas
circulé.
Mais vous avez des hallucinations, cher. Je ne baisse pas le pied. En tout cas, si vous parlez de baiser le pied, si vous baisez la mule du pape, vous avez un précédent, vous savez ça. Vous êtes assez cultivé pour savoir qui est allé à Rome baiser la mule d'un pape, quelqu'un que vous admirez sûrement, comme moi. En plus, c'est mon compatriote. Montaigne lui-même.
Oui.
Vous l'avez dit.
Oui.
Eh bien, alors vous avez Montaigne devant vous.
Son pied.
Pourquoi
est-ce que vous êtes Montaigne aujourd'hui? Non, je crois qu'on ne va pas s'agenouiller.
Vous êtes le Nietzsche d'aujourd'hui.
C'est pas le problème.
Vous voyez la mule
devant le pape.
Non, mais la mule.
La
baiser le pied du pape tout de suite, mon pauvre.
Qu'est-ce qu'il y a?
Philippe Solers, pour revenir, vous êtes beaucoup, ces derniers temps, vous êtes beaucoup dans le commentaire. Quand vous vous attaquez à Nietzsche, à Casanova, à Vivant Denon, à Fragornard, et dans votre livre sur les fleurs, vous citez beaucoup des spécialistes que j'ignorais totalement. Vous êtes allé des gens qui ont travaillé sur les fleurs. Et alors, vous me dites, vous n'êtes pas dans le commentaire à ce moment-là?
Absolument pas. Vous avez le chapitre citation, je cite Debord. Lisez ce chapitre. Voilà.
Vous voyez, vous êtes dans le commentaire de Debord.
Mais pas du tout. Au contraire. Mais non. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, je ne sais pas. Est-ce que je vous vois de plus en plus, vos derniers livres, je les vois sur les tables à propos des grands auteurs et plus dans les tables création littéraire, nouveauté littéraire.
Ah oui,
vous êtes à propos des grands auteurs.
Eh bien, écoutez, moi je crois que les grands auteurs ont besoin de quelqu'un qui s'empare d'eux dans l'indifférence générale où ils sont tombés. Je crois que l'analphabétisme monte, que l'illettrisme est constant, que l'oubli de l'histoire est absolument dévastateur, que donc plus personne ne sait exactement ce qu'il y a dans la bibliothèque, que je crois qu'il faut sortir les livres, les lire et les vivre en même temps qu'on les lit. Et je crois que c'est vraiment un jeu, mais absolument urgent, étant donné l'ignorance extravagante qui se répand dans notre société. Donc si vous voulez, on prend n'importe quoi, je vais vous lire simplement un peu de prose ou un poème, par exemple de Rimbaud.
Hein, mais pourquoi si pas de Solers, dites-nous.
Mais ça n'a pas... Mais oui, mais
j'ai l'impression de capitaliser sur les autres, vous n'avez plus confiance en vous.
Mais pas du tout.
Dites-nous du Solers.
Mais oui, mais c'est tout ça, c'est du Solers, mon cher monsieur. C'est pareil, tout ça. Pourquoi croyez-vous qu'il faudrait tout simplement... Mais c'est, voilà un préjugé tout à fait actuel. C'est-à-dire, donnez-moi de la nouveauté, quelle est votre philosophie? Je ne sais pas, la philosophie d'Onfray, l'Onfray fait ça tout le temps. Il s'empare de la bibliothèque philosophique, il veut montrer qu'il y avait des philosophes qui ont été méconnus. Etc. Nous sommes dans une période d'urgence, il fait ce qu'il veut avec ça, c'est très bien. Moi aussi, je fais ce que je veux avec... Simplement, nous sommes dans cette urgence. Et il y a eu des gens, nous parlions de Montaigne à l'instant, un certain Montaigne à l'époque, vous auriez dit à Montaigne, vous le recevez à la télévision, mais dites-moi à Montaigne, non seulement vous allez baiser la mule du pape, mais en plus, vos essais, là. Mais il n'y a rien que des citations, du latin, du grec, qu'est-ce que vous faites? Et il vous aurait dit, cher monsieur Taddeï, nous sommes...
C'est pas une... de mille du pape.
Oui, c'est ça. Nous sommes dans une période d'urgence. Tout le monde va tout oublier. Plus personne ne se souvient de rien. Tout ça n'est plus compris. Nous sommes dans une dévastation intégrale. Voilà l'esprit des Lumières que je représente déjà, Montaigne à l'époque et d'autres après lui. Ils ont tous fait ça. C'est une tradition éminente. Il faut absolument refaire l'encyclopédie. Tout le monde oublie tout. Plus rien n'est su. Il faut absolument se plonger dans le passé, l'histoire, et qui est l'avenir aussi. Parce que si vous n'irez pas votre passé, vous ne savez plus ce qui va vous arriver et vous finirez dans du totalitaire tyrannique qui d'ailleurs se présente à l'horizon comme quelque chose qui est, bah, évidemment, la dévastation générale. Voilà.
Vous pensez toujours que nous sommes les victimes d'un grand complot, celui de la collectivité, qui voudrait absolument nous culpabiliser de quelque chose, nous empêcher d'être heureux et d'être vivants?
Mais écoutez, là, vous n'avez pas remarqué que la société ne vous encourageait pas vraiment à vivre vos désirs, ou à vous comporter comme vous l'entendez vous seul? Hein, vous avez jamais senti cette emprise, si, parce que dites-moi, moi je sens ça depuis l'enfance, c'est-à-dire comment il faudrait être là, étiqueté, soumis, servile, et puis se taire. Oui, vous croyez pas?
Vous sentez ça, Bernard Pivot?
Non, j'écoutais.
Non, vous aviez l'air de sentir ça tout à coup, comme le vomi tout à l'heure.
Je ne voudrais pas empiéter sur le temps de parole de Soler, parce qu'après ça va se retourner contre nous les animateurs. On m'a dit, il m'a laissé 3 minutes, 4 minutes, vous rendez compte?
Non, il m'a laissé parler. Là.
Oui, non,
vas-y.
Moi devant.
Michel Onfray, alors.
Sur quoi? Mais quelle est la question? Oui. La réponse est oui, mais
on peut la poser à Onfray. Voilà. Pourquoi fait-il une université populaire? Pourquoi fait-il tous ses livres? C'est-à-dire la philosophie ignorée. Voilà, c'est bien qu'il a un sentiment d'urgence par rapport à un mensonge généralisé. Et une urgence, sans quoi, pourquoi faire tout ça? Non, il se tait, donc...
Il fait la question et la réponse.
Qui ne dit mot qu'on sent.
Voilà. Il a posé la question et il a fait la réponse, donc voilà. Je n'ai pas à répondre.
Ma question, c'était que nous dites-vous, vous, Philippe Solers? Et bien, je me demande parfois, je me dis, en vous lisant, puisque vous citez beaucoup, je me dis, mais au fond, je ne sais plus ce que pense Philippe Solers lui-même.
Oui.
Eh bien, il... Par exemple, dans Les Fleurs, que feuillette Bernard Pivot.
Ah, écoutez, ce que Philippe Solers pense lui-même, c'est que s'il n'était pas là... Il ne ferait pas. Ce qu'il pense lui-même, c'est le fait de faire un fil entre des textes ou des situations historiques aussi différentes, en traçant un fil continu. Les fleurs, pourquoi ça, c'est intéressant? Là, c'est un livre magnifique avec des fleurs peintes sur soie par un type qui s'appelle Van Spendonck, que toute personne ne connaît, fin du XVIIIe siècle, qui a été directeur du Jardin des Plantes. Il a peint des fleurs sur soie. C'est Pierre Bérès qui m'a montré ces fleurs. Donc nous sommes en plein dans le système des Lumières. Brusquement, on s'intéresse aux fleurs en détail. Et on comprend qu'à ce moment-là, l'humanité, depuis très longtemps, les fleurs sont là plus loin, est complètement obsédée par ce qui peut se passer dans la germination et la reproduction des fleurs. C'est-à-dire qu'il y a un impact sexuel considérable. Philippe Solers vous explique à ce moment-là, en prenant par exemple Marcel Proust ou Jean Genet, là, à quel point chez Proust c'est extraordinaire. Il faut sortir ce qui se passe avec les fleurs chez Proust, par exemple. Pourquoi il a la relation avec l'odeur des aubépines dans une église? Pourquoi ensuite avec une orchidée? L'orchidée. Pourquoi l'orchidée est un symbole sexuel? Qu'est-ce que c'est que faire Cattleya lorsqu'on fait l'amour? Oui, ça vous parle.
Mais ça, c'est Proust, mais c'est pas Philippe Solers.
Mais écoutez, si j'ai fait Cattleya moi-même et vous? jamais. Mais si, alors il faut savoir que tout ça obsède l'imagination humaine. Vas-y.
Ô blanc chasseur qui court sans bas à travers le pâti panique, ne peux-tu pas, ne dois-tu pas connaître un peu ta botanique?
Bravo. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord tous les deux, Michel Onfray et Philippe Solers. Pourtant, vous avez des tas de points communs sur
la botanique, c'est très
le corps, le plaisir, le jeu, l'amour, les femmes, etc. Ça devrait être des sujets qui vous rapprochent.
À mon avis, oui, mais lui, il ne pense pas. Ben, tant pis.
Dites-nous.
Non, on est vraiment sur des planètes opposées. Donc, Solers a été grand. Il est aujourd'hui futile, il est mondain, il dit tout et n'importe quoi, il défend aussi bien Debord que le pape, il défend, il nous dit, plus personne n'a le sens de l'histoire, et puis en même temps, quand Emmanuel Faye fait un travail extraordinaire sur Heidegger et Heidegger en perspective avec l'histoire, il veut plus qu'on fasse d'histoire d'un seul coup, donc il est sur tous les bords, sur toutes les positions, et c'est difficile de le suivre. Alors il y a des moments où effectivement on peut être d'accord avec lui sur Casanova, mais 30 secondes après il va dire autre chose, éventuellement l'inverse. Et c'est difficile de le suivre. Moi, j'ai pas envie de le suivre sur tout. Donc, il y a des moments où, effectivement, on peut être d'accord sur un certain nombre de sujets ou sur un certain nombre de plans. J'ai du mal, effectivement, à composer avec Ratzinger, avec Jean-Paul II. J'ai du mal à composer avec Heidegger nazi. J'ai du mal à composer avec une partie du panthéon de Solers. Donc, on n'est pas sur le même monde. Il est à Paris, il est partout, dans les journaux, dans les directions de collection. Je n'y suis pas, je suis en province, je dirige rien du tout, je suis nulle part. Donc, on est chacun sur son bord. Mais il est sympathique et j'ai de la sympathie pour lui, mais ceci dit, on est sur des antipodes complets. Je pense
c'est
bien,
les antipodes.
Mais c'est très bien, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit simplement que c'est pas parce qu'on a le goût, lui et moi, de la musique, par exemple, de la peinture, des beaux-arts, de la littérature, que pour autant ça suffit à faire des communautés de pensée. Moi, je suis sur
pas
des perspectives.
De communautés de pensée.
Non, mais je suis sur des
oh
perspectives
là.
Qui sont des perspectives politiques et pas mondaines. Je cite pas Debord, moi. Mais vous faites référence à Heidegger. On est dans le mondain d'Heidegger.
Où ça?
Dans le mondain. Bah, vous lirez Heidegger et vous verrez qu'il y a une définition heideggerienne du mondain. Mais c'est à ça que.
Le poème de Voltaire qui s'appelle le mondain.
C'est à ça que je pense.
Vous aimez ce poème?
Mais c'est vous l'heideggerien. Vous parlez sans cesse d'Heidegger. Parlons d'Heidegger autrement que dans l'anecdote.
C'est bien tardivement que nous avons commencé à parler de
bavardage.
C'est du bavardage, Heidegger.
Théorie du bavardage, Heidegger.
Qui ?
Ben, faudra le lire un jour, et vous verrez. Il y a une théorie du bavardage, il y a une théorie du on. Enfin, il ne faut pas se contenter de parler des gens sans les avoir.
Vous allez devenir ennuyeux, et il vaut mieux passer à autre chose.
Chacun son tour, j'y vais. Vous l'avez été longuement.
À la télévision, l'ennui.
Un peu, si c'est possible.
C'est parce que vous avez peur de l'ennui à la télévision. Vous avez peur
de l'ennui. J'ai peur de l'ennui tout le temps.
Non, mais pour avoir de débat, je propose un débat. Solers n'en veut pas. Quand on commence à parler du bavardage chez Heidegger, il y a des usages que ce truc. Le mondain chez Heidegger, c'est quoi mondain? Mais non, mais arrêtez de faire référence à Heidegger pour vous n'avez pas lu. Mais là, tout de suite. On n'est pas là pour parler d'Heidegger, et pourquoi pas. Vous parlez de l'oubli de l'histoire en trouvant que c'est dommageable, et je vous dis, vous défendez Heidegger en oubliant l'histoire. Ce type fut nazi de 33-45, on ne peut pas avant, on ne peut pas après. Et vous voulez que cette histoire-là ne soit pas importante pour penser, lire ou comprendre Heidegger. Donc faisons des débats. Quand je vous parle du bavardage ou du on ou du mondain chez Heidegger, vous avez l'air de tomber du ciel en me disant c'est quoi, c'est où, c'est chez qui? C'est chez Heidegger. Donc, parlons-en si vous voulez, mais lisons les textes, puis arrêtons de jongler avec Debord, avec Casanova, avec Vivant de Non, je ne sais quoi. Allons voir les textes et faisons des débats. Et sur Nietzsche aussi, et sur d'autres également,
un peu de sérieux. Tout à fait. Et là, nous allons nous ennuyer beaucoup, et je vous propose un débat, alors là, vraiment, dans votre université, et je vais répondre très, très précisément à toutes vos questions, je m'exposerai à vos questions les plus sévères.
Mais je pense que ce n'est pas le moment, parce que nous parlons de fleurs. Alors d'accord,
parlons fleurs. Vous avez l'air toujours de laisser entendre, on ne peut pas parler de ce qu'on a écrit à la télévision, mais ce qu'il y a de sous-entendu aussi, c'est qu'on n'est pas lu. Quand on est un écrivain, comme Philippe Solers, on part du point de vue qu'on n'est pas lu.
Mais écoutez, c'est d'ailleurs la question que je pose à chaque instant dans des recueils que je fais, la guerre du goût, c'est la bibliothèque que je mets en marche, elle ne s'arrête pas à Heidegger, elle passe partout. Et donc le problème est que je crois vraiment urgent, je le vérifie dans ma profession, je suis éditeur, je vois comment ça se passe, je vois comment la réception des livres est apparue, c'est pas Bernard Pivot qui me dira le contraire, parce qu'il sait aussi de quoi il s'agit, je pense, c'est que même les professionnels ne lisent pas vraiment les livres. Ils n'ont pas le temps, ils se font une idée superficielle. Exemple, le roman de Jonathan Little, qui est un roman absolument extraordinaire. Il faut le lire jusqu'à la page 800 au moins pour comprendre exactement ce qu'il veut dire à travers ce paysage absolument complexe, avec une documentation extraordinaire. On comprend à la page 800 où est-ce qu'il veut en venir avec son histoire, avec sa sœur, son incest, son identification avec sa sœur, etc. à travers le paysage extravagant et documenté sur le génocide nazi, la Shoah. Bon. Eh bien, c'est un livre extraordinaire, sauf que maintenant, les gens se précipitent dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils le lisent vraiment. On est à 250 000 exemplaires. Je vois des professionnels de critique, pas seulement de la télévision. La télévision, même, on les excuse, il n'y a pas le temps, tout simplement. Il n'y a pas le temps là. Mais merci, mais je parle vraiment, je suis content d'être avec vous. Voilà. Donc, dans les journaux, dans les magazines, ça, on peut vérifier qu'ils n'ont pas lu. Est-ce que Pivot dira le contraire ?
Attends, moi je n'ai jamais invité un auteur en 28 ans d'émission dont je n'avais pas lu le livre. Excuse-moi. Alors peut-être parfois je le comprenais mal, bien sûr, je ne suis pas un esprit particulièrement intelligent, mais en tout cas je faisais l'expérience et les livres même, parfois il y avait des livres difficiles, par exemple de Michel Onfray, j'essayais de les lire, vraiment, ça me prenait plus de temps évidemment qu'un polar, ça c'est sûr, mais j'ai toujours fait l'effort de lire. Alors moi je ne peux pas dire que tous les professionnels de la lecture de l'histoire.
Je vérifie chez les professionnels qu'ils ne lisent pas ou pas vraiment. Voilà. Donc, de la sociologie dont Onfray vient de donner une excellente illustration parce qu'il ne me lit pas. Il a dit Solaire, Mondain, patati, patata, n'importe quoi. J'ai tendance, éventuellement, si je veux parler de lui, je vais le lire. La différence est énorme.
Et bien on s'arrêtera là. Merci à tous.